simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir.
Salut. Alors, ce soir, il nous a paru intéressant de revenir de manière un petit peu plus détaillée et affirmative sur ce qui se passe au Proche-Orient, en Palestine. En effet, nous avons eu le plaisir et la chance de participer à quelques événements au cours de ces 15 derniers jours et on a été un petit peu, comment dire, désappointés. Peut-être surpris par les thématiques qui étaient développées. Bien évidemment, on peut que se réjouir que dans notre bonne ville habituellement froide et on va dire assez calme se développe et des gens se mobilisent pour la solidarité avec la Palestine et plus particulièrement avec l'attaque assez terrible que vit les Gazaouis, mais aussi ce qui se passe en Cisjordanie, d'ailleurs qui va entrer certainement au cours de cette semaine dans une nouvelle étape, si on pouvait penser qu'il y avait encore des nouvelles étapes aussi dans l'horreur. Là, il est sûr qu'avec l'attaque sur ce qu'il reste de la bande de Gaza, et plus particulièrement la localité de Rafah, où sont regroupés la majorité des Palestiniens de la bande de Gaza qui n'ont pas pu se sauver. On va être dans des circonstances encore plus dégueulasses. Enfin bon, j'abrège. Voilà, nous, ce qui nous a surpris, c'est on a assisté pour le moment à des revendications et un discours somme toute extrêmement humaniste, dans une vocation humanitaire, et que la dimension politique et historique était évacué assez rapidement. Alors, il faut toujours rappeler que, évidemment, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Ça, c'est vraiment fondamental. Et que les mouvements de solidarité qui ont eu lieu auparavant avec les Palestiniens et avec la Palestine ont été des mouvements qui se basaient sur une critique de l'impérialisme, relevant que l'État israélien était un poste avancé de l'impérialisme occidental, ça c'est clair, et que d'autre part, le front que constituaient les organisations de libération de la Palestine était éminemment critiquable et était multiple et varié. Que à l'intérieur de ce front, de l'OLP, de l'organisation, il y avait différentes composantes issues de différentes traditions politiques et historiques. Et que d'autre part, il était fondamental de poser le caractère colonial de ce conflit.
Oui, parce que c'est quand même difficilement évacuable. Quand on parle de colons, je sais pas, mais on parle à chaque fois qu'on parle, même le pire des sionistes parle sans problème de colons. Oui. Donc, c'est bien un colonialisme.
Voilà, ou, tout à fait.
Ou alors, je comprends pas.
Non, mais c'est ça, t'as très bien compris. Et donc, forcément, entre le colon et le colonisé, il ne peut pas y avoir de signe d'égalité. On ne parle pas de deux forces en présence, on ne parle pas de rapport d'égalité, etc., etc. Et que dans l'histoire, les seules colonisations, on pourrait dire, qui ont réussi... elles se sont terminées en général par des destructions massives, si ce n'est des génocides des peuples indigènes. Un exemple, les États-Unis.
États-Unis,
avec, on va dire, la quasi-disparition, en tous les cas, l'acculturation plus que forcée et le statut inférieur des Indiens d'Amérique, qui ne sont pas des Indiens d'ailleurs, puisque qui sont tout un tas de tribus dont les noms sont différents, mais qu'on définit, qu'on désigne assez largement sous le nom d'Indiens d'Amérique. Mais bon, c'est pas le nom, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ou idem pour le Canada, etc., etc.
L'Australie.
Ouais, l'Australie également. Donc voilà, vous voyez, là, ce sont des colonisations entre guillemets qui ont marché. Donc, à la limite, la caractérisation de génocide, elle va de soi. C'est, on va dire, quelque chose qui est consubstantiel à la colonisation. La seule petite différence, entre guillemets, c'est que les Palestiniens sont un peuple qui se sont constitués une identité nationale et qui ont, à un moment... parfois, dans leur histoire, on pourrait même dire toujours, résister les armes à la main. Et donc, forcément, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. C'est la même chose pour les Kurdes. Ce sont des gens qui, bien évidemment, des peuples qui, évidemment, ont eu maille à partir ou des alliances et des moments de repli, etc., mais qui ont conservé le caractère de la lutte armée. Et donc là, forcément, on va dire la victime, le colonisé bouge encore, se défend encore. Donc forcément, ça pose problème. Alors, il faut aussi le remettre dans quelque chose d'intéressant. C'est parce que si on le pose pas comme ça, on peut pas comprendre le délire. Absolu qu'on a depuis le 7 octobre et sa traduction dans la restriction de plus en plus forte de nos libertés publiques, qui étaient déjà pas en très bonne santé auparavant, hein, faut quand même le dire. Mais là, quand même, on en arrive à des niveaux assez incroyables, à tel point qu'on se demande où est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, ça c'est sûr, et quels vont être nos moyens pour pouvoir le faire et pour pouvoir le dire. Et puis, d'autre part, si on ne prend pas effectivement cette thématique coloniale et politique, eh ben, on se trouve complètement piégé dans les termes du débat qui nous sont imposés, à savoir terrorisme, religion, etc., etc., où en fait la solidarité avec la Palestine... devient le fait d'une population ou d'un groupe réservé. Oui, on peut être internationaliste. Oui, on peut être athée. Oui, on peut être anarchiste. Oui, on peut être révolutionnaire et être solidaire avec les Palestiniens en tant que oppressés, en tant que colonisés, et sans avoir une possibilité de rallier telle ou telle, on va dire, fraction, mais en considérant que dans l'histoire, la solidarité, elle se fait avec les colonisés et avec les opprimés.
Je crois que ce qui est important aussi à dire, c'est que ce qui se passe là-bas, c'est pas une guerre de religion. On arrête on nous bassine toujours avec ça. C'est pas vrai, c'est pas une guerre de religion. Bon, qu'il y a des religions qui existent, c'est évident, mais c'est vraiment une guerre coloniale.
Oui, même à la limite, est-ce qu'on peut interroger le terme de guerre? Parce que quand on présente la chose comme guerre Hamas-Israël, oui. ça reste très interrogeant. Il y a un anéantissement, un nettoyage ethnique, un risque réel et imminent de génocide, comme le dit la Cour internationale de justice. Le vice-président de Médecins du Monde, quand même pas non plus des comètes, hein, en termes de dénonciation, hein. On parle de 30 000 morts sur une population de 2,5 millions d'habitants. Oh, 7 000 portées, ouais, 7 000 disparus. On est à 40 000, ouais. Plus de 7 000 personnes qui sont portées disparues. Donc, on est certainement à plus de 50 000 morts directes. Plus ensuite, tous les gens qui vont mourir de manière indirecte par le fait de manque de soins. Il y a une destruction totale de la bande de Gaza et de ses infrastructures qui vise certainement à la rendre invivable. Pour après, s'il y a un après. Et puis, somme toute, on voit assez peu de combats dans le sens où on voit pas de faction. Et puis, de toute façon, déjà, d'une part, on peut dire qu'un secteur comme ça, un conflit dans lequel les journalistes internationaux n'ont pas le droit de rentrer, ça devrait déjà interroger tous ceux qui nous cassent les pieds, et je reste poli, avec la nécessité de la liberté de la presse. À noter d'ailleurs aujourd'hui que le gouvernement israélien, enfin le cabinet de guerre, c'est pas un gouvernement, c'est un cabinet de guerre, c'est des gens qui concentrent des pouvoirs, hein, c'est pas, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, à la Knesset israélienne, hein, c'est un petit groupe de personnes qui décident de tout, vient d'annoncer la fermeture d'Al Jazeera. On attend avec impatience les commentaires des journaleux ici pour nous dire combien Israël est une grande démocratie, hein, comme vous le savez, la seule, hein, du Moyen-Orient. Voilà. Voilà. Bon, je me tais. On va s'écouter un petit son de nos camarades de frustration qui résume ça de manière beaucoup plus claire que le charabia que je viens d'énoncer depuis une dizaine de minutes. Et puis, on reviendra aussi sur évidemment, que faire. Parce que si tout cela nous révolte, on a peut-être envie de se mobiliser, on doit se mobiliser, mais on n'a pas forcément de levier, on voit pas forcément de levier sur lequel on peut dire, et puis on est peut-être un peu aussi mal à l'aise sur les biais sur lesquels on voudrait aller, puisque forcément on se dit que c'est pas les étudiants de Sciences Po qui vont réussir à sauver le peuple palestinien. Alors c'est pas méchant, mais c'est que ça va pas être suffisant, quoi.
C'est sûr que ça va pas être suffisant, comme c'est pas été suffisant les étudiants en 68, 69, 66 même, qui se battaient contre la guerre au Vietnam.
Voilà,
les Américains étaient obligés de partir.
C'est quand même déjà pas mal. Allez, écoutons ce que nos camarades de frustration disent là-dessus, et puis on revient dans un gros quart d'heure.
Depuis 6 mois, la guerre fait rage à Gaza. Parce que des franco-israéliens sont retenus en otage, parce que d'autres franco-israéliens participent à cette guerre, parce que la France a apporté son soutien inconditionnel à Israël, parce qu'elle continue de lui vendre des armes, parce que cette guerre est devenue un sujet de l'élection européenne, parce que le racisme anti-palestinien fait écho au racisme anti-musulman et anti-arabe en France, parce que le soutien à la Palestine est extrêmement criminalisé, il ne s'agit pas juste d'un sujet international, mais bien d'un sujet au cœur de la politique française. Essayons donc de prendre un peu de recul et de donner de la perspective. L'épisode que nous connaissons a débuté le samedi 7 octobre 2023, lorsque le Hamas, groupe islamiste qui contrôle la bande de Gaza, un territoire côtier de la Palestine, avec des frontières verrouillées par Israël et l'Égypte, extrêmement densément peuplé, sous énormes difficultés humanitaires, a lancé une attaque contre des Israéliens, tuant environ 1200 personnes, dont plus de 800 civils. À la suite de cette attaque, Israël a lancé à son tour une attaque massive, qui dure depuis des mois, et qui a tué des dizaines de milliers de personnes, dont une immense majorité de civils. Toutefois, cette guerre n'a pas véritablement commencé le 7 octobre. Pour la comprendre, il faut revenir sur le contexte dans lequel elle s'inscrit, celui de l'oppression coloniale de la Palestine. Parfois, la seule volonté de donner du contexte est critiquée.
Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie.
Peu de temps après les terribles attentats du 13 novembre 2015, Manuel Valls avait prononcé cette phrase restée célèbre par sa stupidité.
Expliquer, c'est déjà excuser.
On se retrouve aujourd'hui dans la même situation de chantage intellectuel. Contextualiser la situation en Palestine-Israël reviendrait immédiatement à se rendre complice des crimes du Hamas. La classe dominante française, politique et médiatique, défend un narratif où la guerre aurait, en Israël-Palestine, commencé avec les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Ce n'est pas le cas. Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, un des principaux think tanks français sur les questions stratégiques et de défense, disait
« Il faut le rappeler, cette opération du Hamas, aussi horrible soit-elle, ne doit pas être déconnectée de l'histoire que vit Israël et les Palestiniens maintenant depuis 48. »
Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste du Moyen-Orient, allait dans le même sens.
En Palestine comme ailleurs, il faut contextualiser une situation pour la comprendre. L'accroissement exponentiel du nombre de colons israéliens, le régime d'apartheid dénoncé par de nombreuses ONG internationales et israéliennes réputées, devrait être rappelé plus souvent.
L'apartheid, cité par le spécialiste, désigne originellement le système de ségrégation raciale institutionnalisé en Afrique du Sud, qui a duré de 1948 à 1994, et qui a imposé des discriminations légales et sociales à l'encontre de la population noire et d'autres groupes raciaux non blancs. Il est désormais communément admis que la situation est assez largement comparable dans le cas du traitement réservé aux Palestiniens. Le parallèle était fait par Nelson Mandela lui-même, emblématique dirigeant anti-apartheid, ayant passé 27 ans en prison avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994, et qui déclarait que « les Nations Unies ont pris une position forte contre l'apartheid et au cours des années, un consensus international s'est construit qui a aidé à mettre un terme à ce système inique. Et nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. » Même analyse du côté de l'archevêque Desmond Tutu, un des héros du mouvement anti-apartheid.
« Critical mass of people want to see an end to the Israeli occupation of Palestine and the oppression of its people. »
J'ai été témoin des routes et habitations sous ségrégation raciale en Terre Sainte, qui m'ont tant rappelé les conditions que nous avons subies en Afrique du Sud. J'ai été témoin de l'humiliation systématique des hommes, des femmes, des enfants palestiniens par les forces de sécurité israéliennes. Leur humiliation est familière à tous les Noirs sud-africains qui étaient encerclés et harcelés et insultés et attaqués par les forces de sécurité du gouvernement d'apartheid.
En Afrique du Sud, ce système est tombé à la fois du fait de la mobilisation de la population, y compris par la lutte armée à laquelle était favorable Nelson Mandela et qui lui valait d'être considéré comme un terroriste dans beaucoup de pays, y compris la France, loin de la réécriture post-mortem du personnage qui en fait un apôtre de la non-violence, et par une pression internationale faite, notamment, d'appels au boycott. Par ailleurs, l'État d'Israël a systématiquement réprimé les actions non-violentes des Palestiniens. En 2018, une marche du retour, pacifique, avait rassemblé 40 000 Palestiniens. L'armée israélienne a tiré sur la marche, tuant 235 Palestiniens, en blessant 10 000, dont près de 2 000 enfants. Le géopolitologue Dominique Moisy expliquait d'ailleurs
« Je crois qu'il y a eu une dérive du côté israélien qui me paraît incontestable. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. »
Tandis que l'historien Eli Barnavi, ex-ambassadeur d'Israël en France, a dénoncé une politique israélienne imbécile à laquelle se sont accrochés les gouvernements successifs et que le dernier a porté à l'incandescence. La colonisation israélienne place donc la population palestinienne dans une situation d'extrême misère. Comme le note le sociologue Mathieu Rigouste, elle frappe tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens. Accès à l'eau, travail, logement, circulation. Sur l'eau par exemple, le gouvernement israélien et les compagnies privées israéliennes mettent des restrictions sévères sur l'accès à l'eau, laissant la majorité des Palestiniens de la Cisjordanie, territoire palestinien situé à l'est d'Israël, sans eau courante. L'armée israélienne, de son côté, commet régulièrement des exactions contre les populations civiles palestiniennes. Les bombardements de civils, les vols de terre, les assassinats sont aussi courants qu'assez peu documentés par les médias français. C'est près de 250 civils palestiniens qui avaient été tués entre janvier et le 6 octobre 2023, dont plus d'une trentaine d'enfants. Le conflit entre Israël et la Palestine est souvent caricaturé comme un conflit religieux. Il faut dire que la religion y a sa place. Israël se revendique l'État des Juifs.
Le Premier ministre israélien a répété qu'il souhaitait qu'Israël soit reconnu sur la scène internationale comme un État juif.
Des groupes politiques palestiniens se revendiquent de l'islam ou de l'islamisme. En France, certains juifs défendent la politique israélienne avant tout par attachement personnel à un État qu'ils considèrent comme la garantie d'une sécurité collective pour le peuple juif après des siècles d'antisémitisme européen. Certains musulmans défendent la Palestine, y compris car, pour des raisons religieuses, ils se sentent particulièrement en solidarité avec le peuple palestinien. Certains défendent aveuglément Israël parce qu'ils sont islamophobes et qu'ils défendront tout État qui tue des Arabes. Certains groupes antisémites jouent avec opportunisme le soutien à la Palestine pour trouver des recrues. Toutefois, l'assimilation de soutien à la Palestine égale antisémitisme est très malhonnête. C'est ce type de confusion qu'essaient souvent de mettre en place les politiciens qui soutiennent la colonisation israélienne. Depuis des mois, l'État d'Israël multiplie les bombardements aveugles qui tuent des milliers de civils et se livre à de nombreuses exactions. On peut par exemple citer les bombardements d'hôpitaux qui ont tué des centaines de blessés et de soignants, comme dénoncé par Médecins Sans Frontières.
Les bombardements de Gaza ont fait plus de 3000 morts, dont des centaines d'enfants selon les autorités locales.
Israël bombarde tout, y compris les camps de réfugiés, tuent en plus des hommes, femmes et enfants palestiniens, des centaines d'humanitaires, de travailleurs et de travailleuses de l'ONU, de journalistes, ce qui rend d'ailleurs difficile l'accès à de l'information fiable. Israël impose un siège complet de Gaza, territoire où vivent 2,3 millions de civils palestiniens, les privant d'électricité, de nourriture, d'eau et de carburant, alors qu'ils n'ont nulle part où fuir. Comme dénoncé presque quotidiennement par l'UNICEF et l'ONU, ce sont désormais des centaines de milliers de Gazaouis dont la vie est menacée par la famine. Israël a également attaqué des distributions de nourriture, tuant encore des centaines de civils. La possibilité même qu'a l'État d'Israël de réaliser ses actions montre le contrôle dont il dispose sur les vies palestiniennes. Pour justifier ses exactions et ses crimes de guerre, le ministre de la Défense israélienne a expliqué qu'ils s'attaquent à des animaux humains et qu'ils agissent en conséquence. Pour Yana Wezman, sociologue et militante féministe franco-israélienne, il s'agit des éléments de langage du génocide. De nombreux experts de l'ONU ont d'ailleurs parlé de graves risques de génocide à l'encontre du peuple palestinien, et le Haut Commissariat des droits de l'homme évoque des crimes de guerre. Mais dans la majorité de la classe politique française, seules les victimes civiles israéliennes semblent susciter l'indignation, laissant comme un blanc-seing pour le massacre des civils palestiniens. Ce deux poids deux mesures en faveur d'Israël est présent même à gauche et particulièrement au Parti Socialiste. Sa candidate à l'élection présidentielle 2022 et maire de Paris, Anne Hidalgo, a par exemple éteint la Tour Eiffel en hommage aux victimes israéliennes. Pourquoi pas? Mais jamais la Tour Eiffel n'a été éteinte pour les milliers de morts palestiniens des dernières décennies. On le retrouve également dans le traitement médiatique. Daniel Schneiderman, dans Arrêt sur image, média spécialisé dans l'analyse et la critique des médias, montrait comment, quand il s'agit des Israéliens, la presse insiste sur les victimes civiles quand elle se contente de dire « les Palestiniens » quand ces derniers se font tuer. Rappelons que
« l'écrasante majorité de ces victimes des bombardements israéliens ou de ceux qui les fuient sont aussi des civils. Pourquoi les dépêches des agences internationales ne le précisent-elles pas? Que révèle cette omission sur l'inconscient et les présupposés des rédacteurs de synthèse ou de légende ?»
Ce sentiment est analysé par Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales et professeur à Sciences Po.
« On paye le fait qu'on n'arrive pas à concevoir qu'un homme vaut un homme. » Qu'un humain vaut un humain et que la peine, la douleur d'une famille palestinienne, elle est identique à la peine et à la douleur d'une famille israélienne. Et le sentiment que l'on a dans la région, c'est qu'il y a une inégalité de traitement et une certaine indifférence par rapport aux causes du mal.
Si dans le meilleur des cas, on se contente de renvoyer dos à dos les protagonistes, on est toujours dans un cas de deux poids deux mesures. Le deux poids deux mesures se manifeste en effet également dans le fait que si le droit d'Israël à se défendre est toujours invoqué, celui des Palestiniens à le faire ne l'est jamais. Un mot qui a beaucoup fait parler est celui de terrorisme. Tuer des enfants, des jeunes festivaliers, des habitants d'un kibbutz, ce sont évidemment des crimes de guerre, des exactions, du terrorisme. Et le problème du mot terrorisme est qu'il peut être utilisé pour désigner des actions de nature très différente, qui visent des populations civiles, ou qui visent des infrastructures, des cibles militaires, etc. Il est donc flou. C'est pourquoi Nelson Mandela était considéré comme terroriste, que la résistance française était qualifiée de terroriste, qu'encore aujourd'hui, on entend ce mot pour désigner les écologistes qui font de la désobéissance civile. Bref, on voit bien que le mot seul peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'agence France Presse se refuse à l'utiliser. Tandis que crime de guerre renvoie à des notions plus précises, notamment les exactions envers des civils. En l'état, la Palestine n'étant pas une nation souveraine, tout type d'organisation militaire est par essence considéré comme terroriste. Peu importe son idéologie, peu importe qu'elle se rende coupable ou non de crimes de guerre. Autrement dit, toute résistance ou formation armée palestinienne est considérée comme terroriste. Le mot « crime de guerre » distingue et précise le propos. On pourrait sinon admettre une définition plus commune de terrorisme, une action qui prend pour cible indistinctement des civils et qui cherche à terroriser, auquel cas l'attaque du 7 octobre peut entrer dans cette définition. Mais si on accepte cette définition, quid de bombardements délibérés sur des civils? Quid de priver de nourriture et d'eau une population entière? Pourtant, on sait que jamais ces actions de l'État d'Israël ne sont qualifiées de la sorte par les médias et la classe politique. Aucun journaliste ne va aller traquer ceux qui promettent un soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahou qui parle d'animaux humains, pour leur demander pourquoi ils ne qualifient pas les bombardements contre les populations civiles d'actes terroristes. Ce que fait actuellement l'État d'Israël avec les bombardements et le siège de Gaza constitue de manière évidente des crimes de guerre à l'encontre de populations civiles sur le plan du droit international. Le terme « crime de guerre » a donc l'avantage d'éviter le deux poids deux mesures. Victime civile du terrorisme quand il s'agit de civils israéliens, mort palestinien quand il s'agit de civils palestiniens. Or, une vie humaine vaut une vie humaine. Sébastien Tuller, responsable LGBTI+, pour la branche française d'Amnesty International, va dans le même sens.
Il n'existe pas de définition juridique du terrorisme reconnu au niveau international, et il est souvent préférable de décrire les actes, tirs de roquettes, enlèvements, prises d'otages, etc., et les accusations, que de se lancer dans des débats idéologiques. L'expression reste sujet à de nombreux abus de langage partout dans le monde et est largement chargée de connotations politiques. Une personne peut être considérée comme un terroriste par les uns et un combattant de la liberté par les autres. Jusqu'à aujourd'hui encore, aucune définition ne fait consensus au niveau mondial.
Comme le rappelle l'historien André Guntert, professeur à l'EHESS, ce que dissimule en réalité ce débat sémantique, c'est une opération d'invisibilisation à double détente. D'une part, diabolisation des indigènes et soutien du colonisateur par les anciennes nations coloniales, et d'autre part, condamnation de la gauche antiraciste et légitimation de la droite colonialiste. En plus du deux poids deux mesures, les marques de soutien aux Palestiniens sont criminalisées en France. Les événements en Palestine-Israël sont l'occasion pour la Macronie de poursuivre son délire autoritaire en judiciarisant toute opinion contraire à la sienne et à son soutien au colonialisme. De nombreuses manifestations en soutien à la Palestine ont été interdites. Gérald Darmanin, lui-même accusé d'antisémitisme en raison de certains de ses écrits, associe tout soutien à la Palestine à des actes antisémites. Le déploiement de banderoles de soutien aux Palestiniens, avec écrit « La Palestine aux Palestiniens », est par exemple considéré comme tel, ce qui vaut interpellation par la police. Il avait annoncé que les manifestations en faveur de la Palestine seraient systématiquement interdites et les organisateurs arrêtés.
On a pu interpeller une grande partie de ces personnes quand c'était
combien
physique.
Combien de personnes ont été interpellées ?
24 personnes ont été interpellées.
Mais la Macronie est allée encore plus loin que jamais, en parlant même d'interdire et de dissoudre certains partis politiques d'opposition.
Je veux également dire que nous avons vu de la part de collectifs, d'associations, parfois de partis politiques, des propos absolument ignobles, appelant à la haine, appelant à l'intifada, appelant à l'apologie du terrorisme. Je me réserve, au nom du ministère de l'Intérieur, d'étudier bien sûr les dénonciations auprès de la justice en article 40 pour tout propos que nous allons considérer comme étant infamant, contraire au code pénal, mais aussi d'engager des procédures de dissolution, quelles que soient ces structures.
Le NPA a été notamment ciblé. Des conférences à l'opposition sont interdites parce qu'elles traitent de la Palestine. Rima Hassan, candidate France Insoumise aux élections européennes, Anas Kazib ainsi que d'autres militants de Révolution Permanente ont été convoqués pour apologie du terrorisme. Rendons-nous compte. Des partis politiques d'opposition voient la police enquêter sur eux, au prétexte de prise de position sur des sujets internationaux. Tous les pays ne réagissent pas avec la même lâcheté que notre gouvernement, qui continue de livrer des armes à Israël. En Amérique latine, la Bolivie a coupé ses relations diplomatiques avec Israël, le Chili a rappelé son ambassadeur, la Colombie a évoqué une possible suspension des relations. En Europe, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie s'apprêtent à reconnaître l'État palestinien. Face à cet engagement international et à la mobilisation qu'elle ne parvient pas à faire taire, la France a fini par voter la reconnaissance de l'État palestinien au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui a été sans effet en raison du veto américain, mais qui a conduit à la convocation de l'ambassadeur français par Israël. L'Afrique du Sud a, elle, poursuivi Israël à la Cour pénale de justice internationale, qui a, elle aussi, évoqué un risque de génocide.
Israël lui-même n'est pas un bloc monolithique. Dans son éditorial du dimanche 8 octobre, le lendemain de l'attaque du Hamas donc, le journal Haaretz, un des principaux quotidiens israéliens, analysait la situation et écrivait que
« Le désastre qui s'est abattu sur Israël est clairement imputable à une seule personne, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, car celui-ci a établi un gouvernement d'annexion et de dépossession et a adopté une politique étrangère qui ignorait ouvertement l'existence et les droits des Palestiniens. »
Le lendemain, le 9 octobre, à la suite de l'annonce du siège de Gaza, le journal enfonçait le clou, expliquant qu'Israël ne peut pas emprisonner 2 millions de Gazaouis sans payer un prix cruel. Il s'inquiétait aussi du désintérêt du gouvernement pour les otages israéliens.
De manière horrible mais pas surprenante, Netanyahou a des partenaires qui préfèrent la vengeance à la préoccupation pour les captifs.
À une réunion ministérielle, Smotrich, le ministre des Finances, a déclaré « Nous devons être cruels maintenant et ne pas trop se préoccuper des otages ». De nombreuses familles d'otages sont d'ailleurs critiques de cette gestion barbare qui, in fine, met également en danger la vie de ses otages. Ephraim Davidi, membre du Parti communiste israélien, rappelle lui qu'il n'y a qu'une seule solution, mettre fin à l'occupation. Les voix israéliennes pour la paix ou la décolonisation montrent que soutenir la population israélienne ne signifie pas forcément soutenir la colonisation israélienne et le massacre des habitantes et habitants de Gaza, comme essayent de le faire croire nos politiques. Dans l'immédiat, l'ONU ne cesse de demander un cessez-le-feu.
Le Conseil de sécurité vient de voter sa première résolution. Il demande un cessez-le-feu immédiat et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.
Et pour assurer la paix, il faut la décolonisation en urgence. Cela passe soit par la solution à deux États, un vrai État palestinien, souverain, disposant d'un espace lui permettant de vivre dans de bonnes conditions, aux côtés d'un État israélien. Cette solution est considérée par certains comme désormais presque impossible à mettre en place, en raison du morcellement du territoire de la Cisjordanie et de l'implantation de centaines de milliers de colons israéliens. Ou alors cela passe par un État laïque, pour toutes et tous, avec des droits égaux pour tous, sans distinction de religion ou d'origine. Cela peut rejoindre, d'une certaine façon, ce qu'a essayé de construire Nelson Mandela après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Dans tous les cas, même si l'État d'Israël a servi et sert toujours de pointe avancée des puissances occidentales au Moyen-Orient, et malgré les crimes atroces dont celui-ci s'est rendu coupable et se rend toujours coupable, il faut avoir en tête la particularité du colonialisme israélien, qui est un colonialisme sans métropole.
Mais la spécificité d'Israël, c'est que les sionistes n'ont pas de territoire où rentrer. Ce n'est pas une colonie occidentale, on l'a vu, c'est un État créé grâce à la puissance coloniale occidentale.
C'est pourquoi, par exemple, le cas de l'Algérie française était différent. Les techniques de guérilla, combinées à des attentats notamment contre des civils, aussi abjects et condamnables qu'ils soient par ailleurs sur le plan moral, ont créé chez les colons français une peur et une lassitude qui les ont amenés, à un moment donné, à se résoudre à retourner en France auprès d'une population de métropole elle-même lassée par la guerre. De toute évidence, la situation n'est pas comparable ici, d'autant plus face à un État surarmé. L'objectif de l'anticolonialisme qui souhaite une paix saine et durable doit donc prendre en compte cette particularité qui ne peut pas passer par le simple retour des colons dans leur métropole. Il doit articuler la volonté d'une partie des Juifs à faire peuple et à vivre en sécurité après des siècles d'antisémitisme européen, tout comme celle des Palestiniens qui n'ont jamais pu obtenir réellement leur indépendance, que ce soit de l'Empire ottoman, des anciennes puissances coloniales européennes, puis d'Israël.
Alors voilà, je m'étais permis de vous proposer cette petite...
Très bien.
Voilà, parce que il a le mérite de faire le tour des principales questions de manière claire et concise, ce qui n'est parfois n'est pas notre plus grand talent. Alors... sur les possibilités justement d'action, parce que on le voit là depuis quelques semaines se déroule un mouvement assez important à l'échelon international qui touche pour le moment principalement la jeunesse et surtout la jeunesse étudiantine. Alors ce sont évidemment les mouvements qui ont lieu sur les campus américains, et puis ce sont les mouvements qui ont lieu sur des campus français, mais alors plus particulièrement sur des campus qui sont centrés autour des instituts d'études politiques et encore plus de Sciences Po, même si depuis quelques jours il y a des mouvements qui ont lieu dans certaines universités comme Paul Valéry à Montpellier, mais au regard du nombre de centres universitaires, ça reste quand même relativement faible.
C'est malheureusement faible.
C'est un mouvement d'indignation, c'est un mouvement d'opinion qui a le mérite d'exister. Hein. On n'est pas là pour délivrer les bonnes cartes, mais qui reste quand même interrogeable dans le sens où ce mouvement se substitue à un mouvement plus large de la société tout entière, et surtout il utilise des méthodes revendicatives, la manifestation, le blocage, etc., etc., qui, si elles ont le mérite d'exister, interrogent quand même cependant sur leur efficacité à court et à moyen terme, puisque c'est, on peut le dire, difficilement envisageable que les étudiants de sciences politiques puissent avoir une influence réelle et matérielle sur la situation. Alors,
moi, j'ai quand même un bémol, si tu veux. Heureusement qu'il y a ça.
Oui.
Hein, heureusement qu'il y a ces étudiants qui bougent. Ces étudiants de Sciences Po qui bougent, mais il n'y a pas que Sciences Po, d'ailleurs, il y a aussi des journalistes de Lille qui sont en formation.
Oui. Alors, là, il y a quelque chose d'un petit peu plus intéressant, parce qu'on on a une interrogation directe de la part d'un des acteurs de ce qui est censé former l'opinion et l'information. Mais si tu le prends d'un autre côté, il y a ces étudiants américains qui, eux, ont effectivement une influence un petit peu plus grande, puisque, faut le rappeler, hein, depuis 2014, si on reprend les chiffres, hein, sur ces 10 dernières années, plus de 60% des ventes d'armes des États-Unis l'ont été En direction d'Israël. Et les États-Unis sont le premier bailleur de fonds de l'armée israélienne à hauteur de plus de 5 milliards de dollars par an. On estime aujourd'hui que si ces livraisons d'armes et ces fonds cessaient, la capacité militaire de l'armée israélienne serait réduite de l'ordre de quelques semaines. Donc on a là quand même quelque chose d'important. Et alors depuis quelques semaines aussi, et je te laisse reprendre la parole ensuite, on a des syndicats américains qui se sont mobilisés, notamment ceux des transports, à savoir les chemins de fer d'une part, et puis les dockers d'autre part. Et là on a vu des choses quand même un petit peu plus intéressantes, puisque en Irlande et en Grèce, il y a eu quelques journées de grève pour protester. Alors là, on a quand même quelque chose qui pourrait plus peser sur la balance. Voilà.
Il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, c'est que ce qui se passe au niveau des universités françaises, enfin, tout au moins au niveau des Sciences Po, c'est qu'ils ont comme revendication que les échanges avec certaines universités israéliennes cessent. Ça a fait penser à la campagne BDS de boycott des produits israéliens, que ce soit des produits du style PEC, etc., mais ça peut être aussi des produits intellectuels, ça peut être aussi des livres, ça peut être aussi culturel, culturel. BDS est quand même, ça peut faire mal à Israël, ce genre de boycott, de faire en sorte que Israël soit enfin obligé de baisser pavillon.
Alors, il y a quand même un problème qui a été relevé, c'est que si d'une part il y a des centres universitaires israéliens qui ont un poids et une influence, voire même une pratique directe dans la fabrication de l'idéologie sioniste, mais aussi dans la technologie et l'élaboration des doctrines et des stratégies militaires, il y a d'autres universités où il y a d'autres universitaires qui sont parfois le lieu de la rare opposition qui existe à Netanyahou et à la politique criminelle de l'État d'Israël. Donc il y a quelque chose là qui est un peu paradoxal. Alors on peut penser que ces étudiants vont légitimement s'interroger sur leurs pratiques et leurs méthodes. Et de toute façon, il n'y aura pas de possibilité d'influence si on n'est pas en capacité de créer un rapport de force direct vis-à-vis de notre gouvernement d'une part et de l'autorité palestinienne d'autre part. Et ça, c'est à l'occasion de grands événements ou de moments importants, comme par exemple les Jeux Olympiques, mais aussi tout ce qui permet d'alimenter l'effort de guerre israélien. Et d'ailleurs, à ce propos, tu voulais nous parler du cœur, on va dire, du problème qui sont l'armement, quoi.
L'armement, oui, et puis le fait que les pouvoirs publics français nient le fait que la France puisse participer directement au massacre et au génocide. Alors, il y a une enquête qui a été faite en mars par le média d'investigation Disclose, ainsi que par Marseille Actu. Ils ont fait une enquête pour justement ces livraisons. En fait, la France a autorisé fin octobre 2023, donc tout de suite après le 8 octobre, la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Il s'agit de petites pièces métalliques servant à relier entre elles des balles de fusil mitrailleur qui permettent aux soldats israéliens des tirs en rafale. Par exemple, ces rafales ont tué plus d'une centaine de Gazaouis lors d'une distribution de nourriture à la population le 29 février dernier. C'est le triste célèbre massacre de la farine. Les armes concernées sont les Negev 5, qui permettent de tirer entre 650 et 950 coups par minute ou d'envoyer des grenades et qui équipent les fantassins de l'armée israélienne. Alors, une photographie de ces journalistes qui ont fait du boulot montre une cargaison d'armement destinée à Israël, avec un bordereau scotché sur un carton où l'on peut lire en anglais 10 000 liens M27 pour des munitions 5,56 mm. Ces caisses étaient stockées dans un hangar appartenant à l'entreprise Eurlings, une firme spécialisée dans la fabrication d'équipements militaires et basée à Marseille. Alors c'est justement pour ça qu'il y a eu, là, le week-end dernier, je crois, c'était le 1er avril, une manifestation à Marseille par rapport à cette entreprise, Eurlings. Il y a eu 400 personnes tout de même dans la rue, ce qui n'est pas négligeable dans la situation actuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, des dizaines de colis qui partent pour Israël, qui sont empilés dans cette entreprise Eurlings que je parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 10 ans, la France a vendu pour 200 millions d'euros d'armes à Israël. Rien que depuis l'élection de Macron en 2017, il y a eu 111 millions d'euros d'armes qui ont été exportées vers ce pays qui bombarde aujourd'hui Gaza. La France est le premier fournisseur européen d'armement à l'État d'Israël, européen, évidemment, et échange aussi des savoirs avec l'État hébreu. Darmanin, d'ailleurs, a officiellement demandé des conseils à Israël pour maintenir l'ordre après la révolte pour Naël à l'été dernier. Alors, plus globalement, le commerce entre ces deux pays est florissant. Tout produit confondu, les exportations françaises à destination d'Israël sont passées de 1386 millions d'euros en 2020 à 2131 millions en 2022, soit une augmentation de 53%. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a 4185 soldats de nationalité française et israélienne sur le front. La France est la deuxième nationalité étrangère représentée dans l'armée israélienne, derrière les États-Unis évidemment, et plusieurs soldats franco-israéliens se vantent de crimes de guerre, notamment à travers des vidéos. L'un d'eux s'était félicité de la torture de prisonniers palestiniens en filmant un homme ligoté et couvert d'hématomes. Ces criminels de guerre, qui commettent un génocide pour le compte d'un État fasciste, ne sont pour l'instant pas inquiétés par la justice française, qui fait preuve d'une mansuétude hallucinante à leur égard, comparée au harcèlement de fidèles musulmans pour de simples propos jugés non républicains.
Alors, il y a un franco-israélien, en l'occurrence celui que tu évoquais, qui s'est fait cramer par les vidéos qu'il a faites, qui serait, j'emploie le conditionnel parce qu'on n'a pas encore de véritables choses tangibles, potentiellement sous les radars pour crimes de guerre. Mais un, tu parles de 4000 soldats. On ose imaginer ça avait été des nationalités différentes. De toute façon, il n'y a rien à sauver de la politique de l'État français dans la continuité, hein, bien sûr. Hein, ouais, évidemment, Macron est un champion du monde là-dessus, ouais. Hein, mais il faut voir que cette... symbiose, elle existe depuis très longtemps. Faut-il le rappeler encore une fois que c'est grâce à la loi Cazeneuve de 2014 que cette apologie du terrorisme est passée dans le droit commun. Alors évidemment, il y a eu la circulaire du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, quelques jours après le 7 octobre, qui a enjoint procureurs d'être particulièrement attentifs et vindicatifs sur ces
sur ces délits potentiels. On voit bien que la justice est effectivement très indépendante, hein, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, on a au moins 800 procédures qui ont été déclenchées. Ça va jusqu'à des adolescents pour des simples reprises de posts sur les réseaux dits sociaux. Évidemment, là, on voit encore que les réseaux sociaux sont nos amis. Hein, on peut voir. Donc, c'est ça aussi qui pourrait être un biais d'action, c'est de développer une solidarité réelle et tangible avec toutes ces personnes qui vont en prendre plein la gueule, et pas seulement les stars ou les cas qui sont médiatisés, quoi.
Moi, j'ai toujours dit que pour la solidarité, évidemment, on peut la mettre en marche en participant à ce que fait BDS. Mais aussi, je crois que la meilleure solidarité qu'on peut avoir, c'est d'attaquer justement l'État français. D'attaquer Macron, d'attaquer les socialistes, parce que les socialistes ont toujours été du côté des sionistes. Faut-il le dire, faut-il le rappeler ? Historiquement, c'était ça. Et puis, évidemment, la droite, l'extrême droite, ce qu'on veut. Hein, toute la classe politique, on peut dire.
Oui, le parti travailliste israélien était membre de l'Internationale socialiste sans aucun problème. Hein. Je pense même qu'il doit encore certainement l'être. Il faudrait vérifier, pardon si je me trompe, mais ça m'étonnerait pas. Et voilà des leviers qui nous permettraient d'une part d'accentuer, comme tu l'as dit, la pression sur l'État français, mais surtout de sortir de ce coin, de ce corner dans lequel est en train de nous enfermer la propagande sioniste et la propagande de l'État français, qui vise effectivement à réduire la solidarité avec le peuple palestinien à certaines franges de la population, et de la repolitiser pour que justement il puisse y avoir un élargissement et le transformer en un véritable mouvement populaire qui puisse avoir du poids. Alors, bon.
Là aussi, il faut dire que ça fait penser à ce qui s'est passé à Rwanda, avec un génocide aussi. Il a fallu des années et des années pour qu'on en arrive à ce qu'au niveau international, on reconnaisse qu'au Rwanda, il y a eu un génocide et où la France était présente et a laissé faire. C'est moi qu'on puisse dire. Là aussi, je pense que par rapport à la Palestine, on va l'entendre parler très longtemps de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, et à mon avis, des mecs comme Netanyahou, ils n'ont pas au bout de leur peine au niveau de la répression qu'ils vont subir.
Oui, alors, et malheureusement, comme tu l'as dit, c'est très, 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 très long hein, pour avoir des condamnations. Il a fallu attendre près de 20 ans avant que, par exemple, les responsables des meurtres de masse et des génocides en Yougoslavie, par exemple, soient traduits devant la justice. Et en ce qui concerne le Rwanda, c'est vraiment très parcellaire et c'est très, très long. Et encore, hein, quand on parle de ces très Srebrenica, c'est-à-dire cette épuration ethnique qui avait lieu sur la ville, ça c'est considéré comme un génocide, hein, pour mettre en relation avec ce qui se passe. Et à Srebrenica, il y avait juste eu, si on peut dire, élimination des hommes adultes de 15 à 60 ans, donc des gens qui étaient susceptibles de porter les armes. Là, ce qui véritablement démontre l'intention meurtrière de l'armée israélienne et du projet de Netanyahou, c'est que tout le monde y passe. C'est-à-dire que sur la quarantaine de milliers de personnes qui sont d'ores et déjà décédées, assassinées, on sait qu'il y a un quart qui sont des femmes et des enfants. C'est vraiment, on va dire, un meurtre de masse qui est difficilement contestable, quoi. Et malheureusement, s'il y a eu une tentative de contre-discours, de contre-narratif, comme on dit maintenant, sur Ces dommages collatéraux, on voit bien aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de dommages collatéraux. Le simple fait de toute façon de déplacer des populations de manière forcée et massive est considéré comme un crime de guerre et comme un crime contre l'humanité. Donc on va dire que toutes les cases ont été remplies et il faut vraiment... je vois pas comment on peut défendre quoi que ce soit de qui que ce soit. De toute façon, je pense que plus le temps passe, plus les propos sont inaudibles de la part des défenseurs de qui que ce soit. D'où le fait de raccrocher cette misérable tentative et cette misérable défense à des propositions politiques comme celle de la dénonciation du terrorisme, qui est, rappelons-le, un mot qui ne veut rien dire, qui est un mot à mettre à la poubelle, parce qu'un mot qui est capable d'incorporer à l'intérieur de ça Misak Manouchian, Brendan Tarrant, donc c'est celui qui avait à Christchurch en Nouvelle-Zélande assassiné 70 personnes, Anders Breivik, le cinglé norvégien qui a tué des jeunes à Utøya, ou des individus comme des gens du FLN, ou Nelson Mandela, comme on l'a entendu dans le son, ou d'autres personnes en Irlande, etc., etc. C'est un mot qui n'a pas de sens, qui ne définit rien, qui ne peut rien définir, qui est des collectifs qui utilisent des méthodes et des assassinats de civils, oui, bien sûr, mais une organisation terroriste en soi, ça n'existe pas. Et c'est aussi un des traits de notre époque qui certainement aura fortement marqué la période que nous avons subie avec Macron. C'est cette incapacité à penser le langage et à faire des mots et à faire du langage de la réalité sensible, celle qu'on peut décrire par des mots, quelque chose qui n'a plus de sens, quelque chose qui fait que hier on peut dire noir, aujourd'hui on peut dire blanc, et que tout cela en fait n'est plus du tout, n'a plus du tout de sens. Et cette perte d'essence, ce moment, comme disait le philosophe, où le vrai est un moment du faux, c'est vraiment quelque chose que le spectacle que Macron aura participé à mettre en place, vraiment, il faudra un jour revenir là-dessus, quoi.
C'est une pause musicale avant de
tout à fait. Ah, on va s'écouter un extrait du dernier album, là, du nouvel album des Pet Shop Boys, qui depuis 30 ans font l'électro. Et Pet Shop Boys, c'est un des plus grands groupes anglais populaires. 100 millions de disques vendus. Ils ont 70 ans et sont toujours capables de faire de l'électro magnifique. Mais voilà, depuis 40 ans. Allons-y, Camille. We'll be right back.
Que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, ce que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers.